L'inondation suite. Quatre. J'ignore combien de temps nous restâmes dans la stupeur de cette crise. Quand je revins à moi, l'eau avait grandi encore. Maintenant, elle atteignait les tuiles. Le toit n'était plus qu'une île étroite, émergeant de la nappe immense. À droite, à gauche, les maisons avaient dû s'écrouler. La mer s'étendait. « Nous marchons !» murmurait Rose qui se cramponnait aux tuiles. Et nous avions tous, en effet, une sensation de roulis, comme si la toiture emportée se fût changée en radeau. Le grand ruissellement semblait nous charrier. Puis, quand nous regardions le clocher de l'église, immobile en face de nous, ce vertige cessait. Nous nous retrouvions à la même place, dans la houle des vagues. L'eau, alors, commença l'assaut. Jusque-là, le courant avait suivi la rue, mais les décombres qui la barraient à présent le faisaient refluer. Ce fut une attaque en règle. Dès qu'une épave, une poutre, passait à la portée du courant, il la prenait, la balançait, puis la précipitait contre la maison comme un bélier. Et il ne la lâchait plus. Il la retirait en arrière pour la lancer de nouveau, en battait les murs à coups redoublés, régulièrement. Bientôt, 10, 12 poutres nous attaquèrent ainsi à la fois, de tous les côtés. L'eau rugissait, des craquements d'écume mouillaient nos pieds. Nous entendions le gémissement sourd de la maison pleine d'eau, sonore, avec ses cloisons qui craquaient déjà. Par moments, à certaines attaques plus rudes, lorsque les poutres tapaient d'aplomb, nous pensions que c'était fini, que les murailles s'ouvraient et nous livraient à la rivière par leurs brèches béantes. Gaspard s'était risqué au bord même du toit. Il parvint à saisir une poutre, la tira de ses gros bras de lutteur. « Il faut nous défendre » criait-il. Jacques, de son côté, s'efforçait d'arrêter au passage une longue perche. Pierre l'aida. Je maudissais l'âge qui me laissait sans force, aussi faible qu'un enfant. Mais la défense s'organisait. Un duel, 3 hommes contre un fleuve. Gaspard, tenant sa poutre en arrêt, attendait les pièces de bois dont le courant faisait des béliers. Et rudement, il les arrêtait à une courte distance des murs. Parfois, le choc était si violent qu'il tombait. À côté de lui, Jacques et Pierre manœuvraient la longue perche, de façon à écarter également les épaves. Pendant près d'une heure, cette lutte inutile dura. Peu à peu, il perdait la tête, jurant, tapant, insultant l'eau. Gaspard la sabrait, comme s'il se fût pris corps à corps avec elle, la trouait de coups de pointe ainsi qu'une poitrine. Et l'eau gardait sa tranquille obstination, sans une blessure, invincible. Alors, Jacques et Pierre s'abandonnèrent sur le toit, exténués. Tandis que Gaspard, dans un dernier élan, se laissait arracher par le courant sa poutre qui, à son tour, nous battit en brèche. Le combat était impossible. Marie et Véronique s'étaient jetées dans les bras l'une de l'autre. Elles répétaient, d'une voix déchirée, toujours la même phrase, une phrase d'épouvante que j'entends encore sans cesse à mes oreilles. « Je ne veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir !» Rose les entourait de ses bras. Elle cherchait à les consoler, à les rassurer. Et elle-même, toute grelottante, levait sa face et criait malgré elle « Je ne veux pas mourir !» Seule, tante Agathe ne disait rien. Elle ne priait plus, ne faisait plus le signe de la croix. Hébétée, elle promenait ses regards et tâchait encore de sourire quand elle rencontrait mes yeux. L'eau battait les tuiles maintenant. Aucun secours n'était à espérer. Nous entendions toujours des voix du côté de l'église. Deux lanternes, un moment, avaient passé au loin. Et le silence de nouveau s'élargissait. La nappe jaune étalait son immensité nue. Les gens de Saint-Ain, qui possédaient des barques, devaient avoir été surpris avant nous. Gaspard, cependant, continuait à rôder sur le toit. Tout d'un coup, il nous appela et il disait « Attention, aidez-moi, tenez-moi ferme !» Il avait repris une perche, il guettait une épave énorme, noire, dont la masse nageait doucement vers la maison. C'était une large toiture de hangar, faite de planches solides, que les eaux avaient arrachées tout entière, et qui flottait, pareil à un radeau. Quand cette toiture fut à sa portée, il l'arrêta avec sa perche. Et comme il se sentait emporté, il nous criait de l'aider. Nous l'avions saisi par la taille, nous le tenions ferme. Puis, dès que l'épave entra dans le courant, elle vint d'elle-même aborder contre notre toit, si rudement même que nous eûmes peur un instant de la voir voler en éclats. Gaspard avait hardiment sauté sur ce radeau que le hasard nous envoyait. Il le parcourait en tous sens pour s'assurer de sa solidité, pendant que Pierre et Jacques le maintenaient au bord du toit. Il riait, il disait joyeusement « Grand-père, nous voilà sauvés! Ne pleurez plus, les femmes! Un vrai bateau! Tenez, mes pieds sont à sec, et il nous portera bien tous. Nous allons être comme chez nous là-dessus. » Pourtant, il crut devoir le consolider. Il saisit les poutres qui flottaient, les lia avec des cordes que Pierre avait emportées à tout hasard en quittant les chambres du bas. Il tomba même dans l'eau. Mais au cri qui nous échappa, il répondit par de nouveaux rires. L'eau le connaissait. Il faisait une lieue de Garonne à la nage. Remonté sur le toit, il se secoua en s'écriant « Voyons, embarquez, ne perdons pas de temps !» Les femmes s'étaient mises à genoux. Gaspard dut porter Véronique et Marie au milieu du radeau où il les fit asseoir. Rose et Tante Agathe glissèrent d'elles-mêmes sur les tuiles et allèrent se placer auprès des jeunes filles. À ce moment, je regardais du côté de l'église. Aimée était toujours là. Elle s'adossait maintenant contre une cheminée et elle tenait ses enfants en l'air, au bout des bras, ayant déjà de l'eau jusqu'à la ceinture. « Ne vous affligez pas, grand-père, » me dit Gaspard. « Nous allons la prendre en passant, je vous le promets. » Pierre et Jacques étaient montés sur le radeau. J'y sautai à mon tour. Il penchait un peu d'un côté, mais il était réellement assez solide pour nous porter tous. Enfin, Gaspard quitta le toit le dernier en nous disant de prendre des perches qu'il avait préparées et qui devaient nous servir de rames. Lui-même en tenait une très longue, dont il se servait avec une grande habileté. Nous nous laissions commander par lui. Sur un ordre qu'il nous donna, nous appuyâmes tous nos perches contre les tuiles pour nous éloigner. Mais il semblait que le radeau fût collé au toit. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvions l'en détacher. À chaque nouvel essai, le courant nous ramenait vers la maison, violemment. Et c'était là une manœuvre des plus dangereuses, car le choc menaçait chaque fois de briser les planches sur lesquelles nous nous trouvions. Alors, de nouveau, nous eûmes le sentiment de notre impuissance. Nous nous étions cru sauvés, et nous appartenions toujours à la rivière. Même, je regrettais que les femmes ne fussent plus sur le toit, car à chaque minute je les voyais précipiter, entraînées dans l'eau furieuse. Mais quand je parlais de regagner notre refuge, tous crièrent « Non, non, essayons encore, plutôt mourir ici !» Gaspard ne riait plus. Nous renouvelions nos efforts, pesant sur les perches, avec un redoublement d'énergie. Pierre eut enfin l'idée de remonter la pente des tuiles et de nous tirer vers la gauche à l'aide d'une corde. Il put ainsi nous mener en dehors du courant. Puis, quand il eut de nouveau sauté sur le radeau, quelques coups de perche nous permirent de gagner le large. Mais Gaspard se rappela la promesse qu'il m'avait faite d'aller recueillir notre pauvre aimé, dont le hurlement plaintif ne cessait pas. Pour cela, il fallait traverser la rue où régnait ce terrible courant contre lequel nous venions de lutter. Il me consulta du regard. J'étais bouleversée. Jamais un pareil combat ne s'était livré en moi. Nous allions exposer 8 existences. Et pourtant, si j'hésitais un instant, je n'eus pas la force de résister à l'appel lugubre. « Oui, oui, » dis-je à Gaspard. « C'est impossible, nous ne pouvons nous en aller sans elle. » Il baissa la tête, sans une parole, et se mit, avec sa perche, à se servir de tous les murs restés debout. Nous longions la maison voisine, nous passions par-dessus nos étables. Mais dès que nous débouchâmes dans la rue, un cri nous échappa. Le courant, qui nous avait ressaisis nous emportait de nouveau, nous ramenait contre notre maison. Ce fut un vertige de quelques secondes. Nous étions roulés comme une feuille, si rapidement que notre gris s'acheva dans le choc épouvantable du radeau sur les tuiles. Il y eut un déchirement. Les planches déclouées tourbillonnèrent. Nous fûmes tous précipités. J'ignore ce qui se passa alors. Je me souviens qu'en tombant, je vis Tante Agathe à plat sur l'eau, soutenue par ses jupes, et elle s'enfonçait, la tête en arrière, sans se débattre. Une vive douleur me fit ouvrir les yeux. C'était Pierre qui me tirait par les cheveux le long des tuiles. Je restai couché, stupide, regardant. Pierre venait de replonger, et dans l'étourdissement où je me trouvais, je fus surpris d'apercevoir tout d'un coup Gaspard à la place où mon frère avait disparu. Le jeune homme portait Véronique dans ses bras. Quand il l'eut déposée près de moi, il se jeta de nouveau. Il retira Marie, la face d'une blancheur de cire, si raide et si immobile que je la crus morte. Puis il se jeta encore, mais cette fois il chercha inutilement. Pierre l'avait rejoint, tous deux se parlaient, se donnaient des indications que je n'entendais pas. Comme il remontait sur le toit, épuisé, « Et Tante Agathe » criai-je, « Et Jacques, et Rose !» Ils secouèrent la tête, de grosses larmes roulaient dans leurs yeux. Aux quelques mots qu'ils me dirent, je compris que Jacques avait eu la tête fracassée par le heurt d'une poutre. Rose s'était cramponnée au cadavre de son mari qui l'avait emporté. Tante Agathe n'avait pas reparu. Nous pensâmes que son corps, poussé par le courant, était entré dans la maison, au-dessous de nous, par une fenêtre ouverte. Et, me soulevant, je regardai vers la toiture où Aimé se cramponnait quelques minutes auparavant. Mais l'eau montait toujours. Aimé ne hurlait plus. J'aperçus seulement ses deux bras raidis, qu'elle levait pour tenir ses enfants hors de l'eau. Puis tout s'abîma. La nappe se referma sous la lueur dormante de la lune. 5. Nous n'étions plus que cinq sur le toit. L'eau nous laissait à peine une étroite bande libre le long du faîtage. Une des cheminées venait d'être emportée. Il nous fallut soulever Véronique et Marie, évanouies, les tenir presque debout pour que le flot ne leur mouillât pas les jambes. Elles reprirent enfin connaissance, et notre angoisse s'accrut à les voir trempées, frissonnantes, crier de nouveau qu'elles ne voulaient pas mourir. Nous les rassurions comme on rassure les enfants, en leur disant qu'elles ne mourraient pas, que nous empêcherions bien la mort de les prendre. Mais elles ne nous croyaient plus. Elles savaient bien qu'elles allaient mourir. Et chaque fois que ce mot « mourir » tombait comme un glas, leurs dents claquaient. Une angoisse les jetait au cou l'une de l'autre. C'était la fin. Le village, détruit, ne montrait plus autour de nous que quelques pans de murailles. Seule l'église dressait son clocher intact, d'où venaient toujours des voix, un murmure de gens à l'abri. Au loin, ronflait la coulée énorme des eaux. Nous n'entendions même plus ces éboulements de maisons, pareils à des charrettes de cailloux brusquement déchargées. C'était un abandon. Un naufrage en plein océan, à 1000 lieues des terres. Un instant, nous crûmes surprendre, à gauche, un bruit de rame. On aurait dit un battement, doux, cadencé, de plus en plus net. Ah, quelle musique d'espoir! Et comme nous nous dressâmes tous pour interroger l'espace, nous retenions notre haleine, et nous n'apercevions rien. La nappe jaune s'étendait, tachée d'ombre noire. Mais aucune de ces ombres, cimes d'arbres, restes de murs écroulés, ne bougeait. Des épaves, des herbes, des tonneaux vides nous causèrent des fausses joies. Nous agitions nos mouchoirs jusqu'à ce que, notre erreur reconnue, nous retombions dans l'anxiété qui frappait toujours nos oreilles, de ce bruit sans que nous puissions découvrir d'où il venait. « Ah, je la vois !» cria Gaspard brusquement. « Tenez, là-bas, une grande barque !» Et il nous désignait, le bras tendu, un point éloigné. Moi, je ne voyais rien, Pierre non plus. Mais Gaspard s'entêtait, c'était bien une barque. Les coups de rame nous arrivaient plus distincts. Alors, nous finîmes aussi par l'apercevoir. Elle filait lentement, ayant l'air de tourner autour de nous sans approcher. Je me souviens qu'à ce moment, nous fûmes comme fous. Nous levions les bras avec fureur, nous poussions des cris à nous briser la gorge. Et nous insultions la barque, nous la traitions de lâche. Elle, toujours noire et muette, tournait plus lentement. Était-ce réellement une barque? Je l'ignore encore. Quand nous crûmes la voir disparaître, elle emporta notre dernière espérance. Désormais, à chaque seconde, nous nous attendions à être engloutis dans la chute de la maison. Elle se trouvait minée, elle n'était sans doute portée que par quelques gros murs qui allaient l'entraîner tout entière en s'écroulant. Mais ce dont je tremblais surtout, c'était de sentir la toiture fléchir sous notre poids. La maison aurait peut-être tenu toute la nuit, seulement les tuiles s'affaissaient, battues et trouées par les poutres. Nous nous étions réfugiés vers la gauche, sur des chevrons solides encore. Puis ces chevrons eux-mêmes parurent faiblir. Certainement, ils s'enfonceraient si nous restions tous les cinq entassés sur un si petit espace. Depuis quelques minutes, mon frère Pierre avait remis sa pipe à ses lèvres d'un geste machinal. Il tordait sa moustache de vieux soldat, les sourcils froncés, grognant de sourdes paroles. Ce danger croissant qui l'entourait et contre lequel son courage ne pouvait rien, commençait à l'impatienter fortement. Il avait craché deux ou trois fois dans l'eau d'un air de colère méprisante. Puis, comme nous enfoncions toujours, il se décida, il descendit la toiture. « Pierre ! Pierre ! » criai-je, ayant peur de comprendre. Il se retourna et me dit tranquillement « Adieu, Louis. Vois-tu, c'est trop long pour moi. Ça vous fera de la place. » Et, après avoir jeté sa pipe la première, il se précipita lui-même en ajoutant « Bonsoir, j'en ai assez. » Il ne reparut pas. Il était nageur médiocre. D'ailleurs, il s'abandonna sans doute, le cœur crevé par notre ruine et par la mort de tous les nôtres, ne voulant pas leur survivre. 2 heures du matin sonnèrent à l'église. La nuit allait finir, cette horrible nuit déjà si pleine d'angoisses et de larmes. Peu à peu, sous nos pieds, l'espace encore sec se rétrécissait. C'était un murmure d'eau courante, de petits flots caressants qui jouaient et se poussaient. De nouveau, le courant avait changé. Les épaves passaient à droite du village, flottant avec lenteur, comme si les eaux, près d'atteindre leur plus haut niveau, se fussent reposées, lasses et paresseuses. Gaspard, brusquement, retira ses souliers et sa veste. Depuis un instant, je le voyais joindre les mains, s'écraser les doigts. Et comme je l'interrogeais, « Écoutez, grand-père, dit-il, je meurs à attendre, je ne puis plus rester. Laissez-moi faire, je la sauverai. » Il parlait de Véronique. Je voulus combattre son idée. Jamais il n'aurait la force de porter la jeune fille jusqu'à l'église. Mais lui s'entêtait. « Si, si, j'ai de bons bras, je me sens fort, vous allez voir. » Et il ajoutait qu'il préférait tenter ce sauvetage tout de suite, qu'il devenait faible comme un enfant à écouter ainsi la maison s'émietter sous nos pieds. « Je l'aime, je la sauverai !» répétait-il. Je demeurai silencieux. J'attirai Marie contre ma poitrine. Alors, il crut que je lui reprochais son égoïsme d'amoureux. Il balbutia. « Je reviendrai prendre Marie, je vous le jure. Je trouverai bien un bateau, j'organiserai un secours quelconque. Ayez confiance, grand-père. » Il ne conserva que son pantalon. Et, à demi-voix, rapidement, il adressait des recommandations à Véronique. Elle ne se débattrait pas, elle s'abandonnerait sans un mouvement, elle n'aurait pas peur surtout. La jeune fille, à chaque phrase, répondait oui d'un air égaré. Enfin, après avoir fait un signe de croix, bien qu'il ne fût guère dévot d'habitude, il se laissa glisser sur le toit, en tenant Véronique par une corde qu'il lui avait nouée sous les bras. Elle poussa un grand cri, battit l'eau de ses membres, puis, suffoquée, s'évanouit. « J'aime mieux ça !» me cria Gaspard. « Maintenant, je réponds d'elle. » On s'imagine avec quelle angoisse je l'ai suivi des yeux. Sur l'eau blanche, je distinguais les moindres mouvements de Gaspard. Il soutenait la jeune fille à l'aide de la corde qu'il avait enroulée autour de son propre cou, et il la portait ainsi, à demi jetée sur son épaule droite. Ce poids écrasant l'enfonçait par moments. Pourtant, il avançait, nageant avec une force surhumaine. Je ne doutais plus. Il avait déjà parcouru un tiers de la distance. Lorsqu'il se heurta à quelques murs cachés sous l'eau, le choc fut terrible. Tous deux disparurent. Puis je le vis reparaître seul. La corde devait s'être rompue. Il plongea à deux reprises. Enfin, il revint. Il ramenait Véronique, qu'il reprit sur son dos. Mais il n'avait plus de corde pour la tenir. Elle l'écrasait davantage. Cependant, il avançait toujours. Un tremblement me secouait à mesure qu'ils approchaient de l'église. Tout à coup, je voulus crier. J'apercevais des poutres qui arrivaient de biais. Ma bouche resta grande ouverte. Un nouveau choc les avait séparés. Les eaux se refermèrent. À partir de ce moment, je demeurai stupide. Je n'avais plus qu'un instinct de bête veillant à sa conservation. Quand l'eau avançait, je reculais. Dans cette stupeur, j'entendis longtemps un rire, sans m'expliquer qui riait ainsi près de moi. Le jour se levait, une grande aurore blanche. Il faisait bon, très frais et très calme, comme au bord d'un étang dont la nappe s'éveille avant le lever du soleil. Mais le rire sonnait toujours, et en me tournant, je trouvais Marie, debout dans ses vêtements mouillés. C'était elle qui riait. La pauvre chère créature, comme elle était douce et jolie à cette heure matinale. Je la vis se baisser, prendre dans le creux de sa main un peu d'eau dont elle se lava la figure. Puis, elle tordit ses beaux cheveux blonds, elle les noua derrière sa tête. Sans doute, elle faisait sa toilette, elle semblait se croire dans sa petite chambre le dimanche lorsque la cloche sonnait gaiement. Et elle continuait à rire de son rire enfantin, les yeux clairs, la face heureuse. Moi, je me mis à rire comme elle, gagnée par sa folie. La terreur l'avait rendue folle, et c'était une grâce du ciel, tant elle paraissait ravie de la pureté de cette aube printanière. Je la laissai se hâter, ne comprenant pas, hochant la tête tendrement. Elle se faisait toujours belle. Puis, quand elle se crut prête à partir, elle chanta un de ses cantiques de sa fine voix de cristal. Mais bientôt, elle s'interrompit. Elle cria, comme si elle avait répondu à une voix qui l'appelait et qu'elle entendait seule. « J'y vais, j'y vais !» Elle reprit son cantique. Elle descendit la pente du toit. Elle entra dans l'eau, qui la recouvrit doucement, sans secousse. Je n'avais pas cessé de sourire. Je regardais d'un air heureux la place où elle venait de disparaître. Ensuite, je ne me souviens plus. J'étais tout seul sur le toit. L'eau avait encore monté, une cheminée restait debout, et je crois que je m'y cramponnais de toutes mes forces, comme un animal qui ne veut pas mourir. Ensuite, rien, rien, un trou noir, le néant. 6. Pourquoi suis-je encore là? On m'a dit que les gens de Saint-Ain étaient venus vers 6 heures avec des barques et qu'ils m'avaient trouvé couché sur une cheminée, évanoui. Les eaux ont eu la cruauté de ne pas m'emporter après tous les miens, pendant que je ne sentais plus mon malheur. C'est moi, le vieux, qui me suis entêté à vivre. Tous les autres sont partis, les enfants au maillot, les filles à marier, les jeunes ménages, les vieux ménages. Et moi, je vis ainsi qu'une herbe mauvaise, rude et séchée, enracinée aux cailloux. Si j'avais du courage, je ferais comme Pierre, je dirais « J'en ai assez, bonsoir », et je me jetterais dans la Garonne pour m'en aller par le chemin que tous ont suivi. Je n'ai plus un enfant. Ma maison est détruite, mes champs sont ravagés. Oh, le soir, quand nous étions tous à table, les vieux au milieu, les plus jeunes à la file, et que cette gaieté m'entourait et me tenait chaud. Oh, les grands jours de la moisson et de la vendange, quand nous étions tous au travail et que nous rentrions gonflés de l'orgueil de notre richesse.
Oh, les beaux enfants et les belles vignes, les belles filles et les beaux blés, la joie de ma vieillesse, la vivante récompense de ma vie entière. Puisque tout cela est mort, mon Dieu, pourquoi voulez-vous que je vive? Il n'y a pas de consolation, je ne veux pas de secours. Je donnerai mes champs aux gens du village qui ont encore leurs enfants. Eux trouveront le courage de débarrasser la terre des épaves et de la cultiver de nouveau. Quand on n'a plus d'enfants, un coin suffit pour mourir. J'ai eu une seule envie, une dernière envie. J'aurais voulu retrouver les corps des miens afin de les faire enterrer dans notre cimetière, sous une dalle où je serais allé les rejoindre. On racontait qu'on avait repêché, à Toulouse, une quantité de cadavres emportés par le fleuve. Je me suis décidé à tenter le voyage. Quel épouvantable désastre! Près de 2000 maisons écroulées, 700 morts, tous les ponts emportés, un quartier rasé, noyé sous la boue, des drames atroces, 20 000 misérables demi-nus et crevant la faim, la ville empestée par les cadavres, terrifiée par la crainte du typhus, le deuil partout, les rues pleines de convois funèbres, les aumônes impuissantes à panser les plaies. Mais je marchais sans rien voir au milieu de ces ruines. J'avais mes ruines, j'avais mes morts qui m'écrasaient. On me dit qu'en effet, beaucoup de corps avaient pu être repêchés. Ils étaient déjà ensevelis en longue file dans un coin du cimetière. Seulement, on avait eu le soin de photographier les inconnus. Et c'est parmi ces portraits lamentables que j'ai trouvé ceux de Gaspard et de Véronique. Les deux fiancés étaient demeurés liés l'un à l'autre par une étreinte passionnée, échangeant dans la mort leurs baisers de noces. Ils se serraient encore si puissamment, les bras raidis et la bouche collée sur la bouche, qu'il aurait fallu leur casser les membres pour les séparer. Aussi les avait-on photographiés ensemble, et ils dormaient ensemble sous la terre. Je n'ai plus que cette image affreuse, ces deux beaux enfants gonflés par l'eau, défigurés, gardant encore sur leurs faces livides l'héroïsme de leur tendresse. Je les regarde et je pleure.